France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Le 19e siècle a été le théâtre d'un mariage passionné et d'un divorce houleux entre les sciences et la poésie. Ce drame s'est cristallisé notamment autour de la figure d'un poète nommé Jacques Delisle, représentant phare de la poésie scientifique, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Comment ses écrits comme L'homme des champs ont-ils pu rendre folle de découvertes scientifiques toute l'Europe et que permettait alors la poésie dans la transmission des savoirs techniques et scientifiques? Aujourd'hui, Science Chrono joue d'une lyre à deux cordes qui n'ont jamais cessé de chercher à s'accorder, les sciences et la poésie. Bonjour Hugues Marchal.
Bonjour Antoine Beauchamp, merci de me recevoir.
Je vous en prie, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France, professeur de littérature française à l'Université de Bâle. Vous avez dirigé une anthologie monumentale intitulée « Muses et ptérodactyles, la poésie de la science de Chénier à Rimbaud » parue en 2013 aux éditions du Seuil. Alors j'en parle, mais malheureusement elle n'est plus disponible et on prie les éditions du Seuil qu'elles fassent une édition de poche, ou en tout cas qu'elles la rééditent. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir la poésie scientifique et l'un de ses plus éminents représentants, Jacques Delisle. Avant d'ouvrir cette page qui fait se croiser les lignes de l'histoire des sciences et de l'histoire de la littérature, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous ferons une exploration des ruines virtuelles laissées par les métavers, ces espaces numériques en partie ou complètement désertés par leurs utilisateurs. On parlera bien sûr de ces univers numériques comme Second Life et on se demandera quelle exploration archéologique de ces ruines immatérielles est aujourd'hui possible. Mais avant cela, revenons à l'histoire des sciences. Vous ne le savez peut-être pas, mais au début du 19e siècle, la plus grande star de la littérature française s'appelait Jacques Delisle. Et cet homme vendait best-seller sur best-seller, mais son affaire n'était pas le polar ou les histoires d'amour. Non, son affaire à lui, c'était la poésie scientifique. Alors avant d'entendre les mots de Jacques Delisle et de comprendre non seulement ce qu'était la poésie scientifique, mais aussi d'expliquer les raisons de l'amour et du désamour pour ce genre au 19e siècle, Hugues Marchal, j'aimerais que vous nous fassiez le portrait de ce Jacques Delisle très méconnu, dont le nom ne parle pas, voire peu ou pas du tout même au grand public. Alors, qui était-il et dans quel univers il a fait ses premiers pas d'auteur?
Alors Antoine Beauchamp, vous avez raison sans doute de parler de star, hein. C'est une des choses qui a un bon moyen d'aborder cette figure oubliée de Jacques Delisle. C'est un peu l'homme de tous les excès en fait, hein, d'une certaine manière. Alors pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est né en 1738 et qui, très jeune, hein, vers une trentaine d'années, va réaliser un des exploits de la littérature de l'époque. Delisle traduit en 1769 les Géorgiques de Virgile, qui est un texte très admiré, un texte de l'Antiquité consacré à l'agronomie, un texte en vers latin, réputé intraduisible. Alors pourquoi? Parce que on pensait que la poésie française, avec ses contraintes, ses normes de hauteur, de choix du lexique, etc., serait incapable de traiter de réalité comme le fumier, les engrais, les récoltes, etc.
Les Géorgiques, c'est un peu un manuel finalement à l'usage un manuel poétique à l'usage des agriculteurs.
Absolument. Et c'est avec le texte de Lucrèce, le De Natura Rerum, hein, des grands modèles de cette poésie dite scientifique ou didactique dont on va parler ensuite. Mmh. Et non seulement Delisle donc va être instantanément on va parler de cette traduction comme un chef-d'œuvre. Ça va valoir à Delisle une élection quasiment immédiate à l'Académie française, élection qui est cassée en disant le roi va l'estimer trop jeune, hein, donc vous voyez un petit peu déjà cet homme hors norme. Hein. Alors trop jeune, sans doute faux prétexte parce qu'on l'estime aussi trop proche du parti philosophique. Dans le même temps, Delisle reçoit une chaire au Collège de France, institution prestigieuse. Hein, on crée pour lui la chaire de poésie latine. Son inélection, qui avait fait scandale à l'Académie, est très vite réparée. Et donc, ces Géorgiques vont, pendant quelques dizaines d'années, vraiment occuper un terrain commercial absolument incroyable, puisqu'on estime, au début du 19e siècle, que plus de 200 000 exemplaires s'en sont vendus.
C'est colossal, voilà, pour l'époque.
C'est Madonna. c'est un petit peu ces choses-là. Et Delisle va ensuite se faire connaître par un poème propre qui s'appelle « Les jardins » ou « L'art d'embellir les paysages » qui paraît cette fois-ci en 1782 et là encore un succès immédiat, succès important critique et populaire, même si une partie de la critique est réservée. Et tout ça lui ouvre, alors on avait parlé des grandes institutions, mais il devient aussi un homme en cour qui va fréquenter Marie-Antoinette, les plus grands nobles. Frédéric II de Prusse écrit pour dire que rien ne l'intéresse dans la littérature française et européenne, sinon Delisle, qui veut absolument voir la suite de ses traductions, etc. Bon, voilà. Et Delisle est par ailleurs une sorte de star de la performance, parce que c'est un lecteur virtuose de ses textes qui circule dans des grandes lectures du Collège de France ou de l'Académie française, mais aussi dans des salons. Et là encore, on a des témoignages nous disant que c'est une sorte de rockstar. On veut absolument l'entendre. Personne ne lit comme lui. Il a le surnom de dupeur d'oreilles. On se presse, on veut avoir des tickets, etc. Buffon, dont on va parler tout à l'heure, écrit des lettres en disant qu'il n'a pas envie de parler après Delisle parce qu'il a peur de faire tâche, quoi, de pas être à la hauteur, etc. Et puis, la Révolution va arriver. Delisle reste en France pendant la Révolution. Il quitte Paris assez tard, en 1795, va entamer un exil qui le mène d'abord en Suisse, y compris à Bâle, hein, d'où mon intérêt aussi pour le personnage, puis en Allemagne et enfin à Londres, où il restera jusqu'en 1803. Et sa stature à ce moment-là est celle finalement un petit peu de grand survivant de la littérature de l'Ancien Régime, dont on attend de nouvelles œuvres. Ces œuvres vont paraître à partir de 1800, qui est la date de L'Homme des Champs ou Les Géorgiques Françaises, dont on va parler. Puis finalement, à un rythme très soutenu, il va publier un nombre important, 6 à peu près, grands poèmes ou grandes traductions, qui vont faire de lui, jusqu'à sa mort, une figure absolument centrale en France, mais centrale aussi dans le reste de l'Europe, voire dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des traductions de L'Homme des Champs qui vont être faites ou publiées au tout début du 19e siècle aux États-Unis ou au Brésil, ce qui est absolument exceptionnel en termes de diffusion.
Alors on comprend l'importance, l'envergure de Delisle. C'est un homme qui est au centre finalement d'une toile, d'un réseau intellectuel, un réseau bien sûr constitué de savants. Quel est le lien de Delisle avec les grands savants de son temps et pourquoi ces scientifiques, ces grands noms des sciences naturelles notamment, le sollicitent en particulier ?
Alors Delisle fait partie de cette culture des secondes lumières, hein, qui dont l'emblème est peut-être l'encyclopédie. Et qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie ? C'est le fer de lance d'une culture et d'un mouvement qui entend promouvoir par tous les moyens tous les savoirs. C'est non seulement les savoirs légitimes, prestigieux, la mythologie, la littérature, etc., les sciences qui ont leur propre prestige, mais également les techniques, dans un contexte de très forte évolution des connaissances, de ce type d'éléments, et avec peut-être, et ça c'est un des points qui me rend cette culture du second XVIIIe siècle la plus attachante, c'est que centrale l'idée que la science et les conquêtes de la raison ne pourront pas se diffuser, avoir un impact dans la société, si elles ne sont pas rendues plaisantes, charmantes. Hein. On est déjà dans une réflexion sur les possibilités de mettre en culture, c'est une expression de Lévi-le-Blond, hein,
Jean-Marc Lévi-le-Blond,
pour essayer de penser un petit peu ce qu'on nomme la vulgarisation, le dialogue entre la science et d'autres éléments. Eh bien, cette mise en culture, cette diffusion des savoirs, mais aussi des débats qui y sont liés, ne pourra pas intervenir s'il n'y a pas une forme plaisante, une manière un petit peu séduisante de faire cela. Alors, dans ce cadre, la poésie, qui est vraiment encore le genre dominant, on n'est pas à la période où le roman est le roi de la littérature, c'est encore la poésie.
Plus tard, au 19e siècle.
Voilà, exactement, qui est la plus prestigieuse. Donc, avoir une poésie qui va avoir chanté les sciences du temps, c'est tout à fait important. Puis c'est plein d'enjeux de prestige, parce que je vous ai parlé du modèle de Virgile qui était derrière. D'une certaine manière, les poètes de l'époque vont rêver d'être les nouveaux Virgiles, de nouveaux grands savants, qui sont Newton, qui sont Kepler, qui sont Galilée. Hein. On a une formule très célèbre, qui date à peu près de cette époque, d'André Chénier, qui dit, voilà, Newton, Kepler, Galilée, et un autre que j'oublie, n'ont pas pu agrandir leur domaine sans ouvrir aussi la carrière des sciences, et ça attend un nouveau Virgile. Donc il y a une attente qui tient du défi et de la demande, hein, dans un cadre dans lequel tous les acteurs de la culture, finalement, n'ont pas de peine à eux-mêmes glisser du champ littéraire au champ scientifique.
Ça, c'est très important de le rappeler, Hugues Marchal, parce qu'aujourd'hui, quand on pense à un scientifique, on pense pas forcément à un littérateur, à quelqu'un qui est capable d'écrire de façon plaisante, on va dire, comme vous le disiez, son savoir. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment concomitant. Littérature et science faisaient quasiment qu'une, ne faisaient qu'une, et étaient nécessaires l'une à l'autre.
Effectivement, on n'a pas de distinction. C'est-à-dire que quand on regarde dans l'encyclopédie l'article Gens de lettres, qui est signé par Voltaire, Voltaire a une formule merveilleuse. Il dit finalement, les gens de lettres sont ceux qui ont des compétences qui vont, et je cite, des épines des mathématiques aux fleurs de la poésie. Et lui-même l'a illustré en étant proche de Madame du Châtelet, la grande introductrice de Newton en France, et en produisant un livre de vulgarisation sur Newton, en marge des travaux de Madame du Châtelet, qu'il débute d'ailleurs par un poème à Madame du Châtelet qui chante et célèbre déjà la figure de Newton. Des figures qu'on identifie peut-être davantage aujourd'hui au monde littéraire, comme Diderot, ont laissé des écrits scientifiques tout à fait importants. Et de l'autre côté, si on veut, un des grands naturalistes de l'époque, Buffon, s'est aussi imposé comme un des plus grands prosateurs de son temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on en parlera bien évidemment, on a du mal à penser cette unité. Donc où est-ce que quelqu'un comme Buffon reste finalement édité et étudié? C'est dans la Pléiade.
Oui.
C'est dans le volume, merveilleux volume Buffon de Stéphane Schmitt, consacré à l'œuvre de Buffon, où on retrouve des morceaux choisis très célèbres, hein, comme Le Cheval, La plus noble conquête de l'homme, etc., qui sont passés dans le champ littéraire aujourd'hui. On pourrait aussi parler de Linné, qui est un merveilleux créateur d'une taxinomie qui est magnifique, parce qu'elle prend tout un matériel devenu obsolète, qui est l'énorme nomenclature de la mythologie telle qu'elle a été chantée par Ovide, pour l'appliquer au monde vivant. Et quand si on est un petit peu familier de la mythologie et qu'on regarde ce que fait avec ces noms Linné, c'est extrêmement amusant. Oui. C'est plein de poésie, c'est plein d'inventivité.
Et à nouveau, nous, avec notre regard de contemporain du 21e siècle, ça nous semble étrange, cette familiarité, cette parenté entre poètes, scientifiques. Bon, il faut retenir déjà une chose qu'on oublie souvent, c'est que la science n'échappe pas, comme les autres objets culturels, au fait d'être un discours et qu'il y a une littérature, finalement. Il y a une production littéraire. Alors, pas forcément séduisante aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un discours. Donc, ça s'analyse aussi en tant que discours. Et pour revenir à cette familiarité entre science et poésie, il faut dire qu'elle date depuis toujours. Cette mise en dialogue, cette mise en tension, elle date depuis l'Antiquité.
Vous avez parfaitement raison, hein, de parler de dialogue et de tension, parce que c'est un genre qui est finalement cette poésie scientifique. On pourrait aussi la dire didactique, descriptive, etc. Je vais pas rentrer dans ces détails. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Virgile et de Lucrèce. On a là des textes qui sont considérés comme des monuments de la littérature mondiale, et ça de manière très précoce, mais qui viennent eux-mêmes d'un univers antique où la liaison entre poésie et science ne va pas de soi, notamment, je prends un seul exemple, parce que Aristote, dans sa Poétique, texte extrêmement célèbre, qui a conditionné tout le classicisme français, explique que des auteurs qui ont mis en vers des réalités non fictionnelles n'ont pas vraiment été poètes, car pour Aristote, la poésie, c'est un petit peu technique, a à voir avec l'invention, la fiction, à mettre, il y a débat sur ces éléments. Donc, quand ensuite, on va avoir des chefs-d'œuvre à nouveau, ou en tout cas qui peuvent être tenus comme tels à la Renaissance, avec quelqu'un comme Du Bartas ou chez Ronsard, on aura le même type de choses encore au XVIIe siècle, où tout le monde ne sait pas qu'il y a un poème de La Fontaine magnifique sur le quinquennat, par exemple. Et cet enjeu va encore se relancer. On peut dire que de siècle en siècle, il est relancé avec de nouveaux débats, etc. Alors, peut-être pour simplifier, pour essayer d'aller au cœur de ce qu'on peut dire, cette période qui est ouverte par l'encyclopédie, est un moment où on pourrait dire qu'il y a une attente sociale d'un chef-d'œuvre relevant de la poésie scientifique. C'est-à-dire que, quoi que le genre pose problème, et il va être attaqué au même moment, au moment même où il se développe, quoi que ce genre pose problème, on a donc une forme d'attente, le poème scientifique étant finalement comme le sommet d'une pyramide, ou occuperait le sommet d'une pyramide culturelle, ou à un niveau réputé extrêmement prestigieux de la littérature, le sommet des sciences, mais aussi ce sommet du récent et de l'habilité humaine que seraient les nouvelles techniques, vont se rencontrer, vont échanger, et dans une sorte de jeu de miroir infini où la science est le faire-valoir de la poésie et la poésie le faire-valoir des sciences. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser.
Alors Hugues Marshall, si on se situe à cette fin du XVIIIe siècle, un petit défi, comment on peut définir ce qu'est la poésie scientifique? Quels sont les critères qui vont faire d'un texte un poème scientifique?
Alors, je prends souvent, je botte souvent en touche en prenant une définition plus tardive d'un poète de la fin du XIXe siècle qui s'appelle René Gill et qui a une jolie formule, lui a utilisé le terme de poésie scientifique qu'on trouve plutôt peu à la période qui m'intéresse. Mmh. Hein, je voulais dire, on a d'autres mots pour en parler. Et il dit finalement qu'il s'agit là d'une poésie qui entend prendre sa matière dans les sciences d'alors, voilà, dans les connaissances d'alors. Et je pense qu'une façon, il y en a d'autres, hein, mais vraiment d'aborder ce point, c'est finalement de se dire deux choses. Comment les connaissances récentes vont-elles passer dans la culture ? Pour que ça passe dans la culture, que l'on parle de poésie ou de toute autre chose, le créateur des sciences et le promoteur des sciences est obligé de se faire poète parce qu'il a inventé un langage. Vos invités le savent bien, hein, très souvent. C'est pas facile de mettre en mots des connaissances scientifiques, de mettre en images. Il y a des compromis.
La science produit des néologismes, exactement. Produit des, voilà. Du langage aussi.
Et la science, on le voit dans le cas de l'astronomie, de la physique quantique, etc., est obligée de passer par des images dont elle sait que ce sont des images, mais qui sont des outils de pensée, de verbalisation, d'échange, etc. Donc la science est en attente, finalement, de formules, hein, qui vont être présentes. Mais par ailleurs, pour le poète, c'est un merveilleux défi. Parce que dans un système où, alors je vous l'ai dit, la poésie omniprésente dans tout le 18e, ça veut dire que tout est mis en poésie en permanence. Et il y a énormément de répétitions. Or, qu'est-ce qu'apporte la science? Elle apporte ce qu'une critique américaine appelle avec raison des mondes non encore chantés. Et ça, c'est un défi fantastique aussi. C'est une capacité de novation qui est extrêmement présente. De sorte que, chez Delille en tout cas, il y a dans la démarche de l'écriture et de la production de poésie scientifique quelque chose aussi de la difficulté vaincue. Mmh. Et c'est peut-être ce qui...
C'est un défi poétique,
exactement,
finalement, la
science. Exactement. Et du coup, c'est peut-être là aussi qu'on peut envisager une autre définition encore de cette poésie scientifique, c'est-à-dire que cette poésie, ça c'est vraiment une posture qu'on trouve chez Delille, est une poésie quasiment expérimentale. Dans un champ où la mise en poésie des sciences ne va pas de soi, parce qu'on peut dire, alors c'est des discours qu'on a à l'époque, hein, on peut dire, il faudrait de la prose, les contraintes du maître, de l'alexandrin sont telles qu'on va dévier, ça va pas marcher. D'autres vont dire, mais la science, les techniques, c'est quelque chose de très sec, ça ne crée pas l'émotion. On a un théoricien qui s'appelle Dubos, qui dit, bah oui, ce genre de poésie existe, mais finalement c'est une poésie jetable. Pourquoi ? Parce que le plaisir d'être instruit n'arrive qu'une fois. Et une fois qu'on a découvert, on ne redécouvre pas. Donc finalement, cette poésie, quelle émotion peut-elle susciter encore, etc. Hein ? Donc on a ces débats qui vont être là. Et ce que fait Delille, c'est quelqu'un qui ne va jamais affirmer la science, les techniques, sont matière à poésie. Ce qu'il va faire, c'est nous dire, voilà, j'ai écrit un poème sur ces domaines, qu'en pensez-vous ? Le recevez-vous comme poétique ou pas ?
Voilà. Parlons justement, Hugues Marchal, de ce poème qui s'appelle L'homme des champs, qui est donc divisé en quatre champs CH. Alors, c'est L'homme des champs CHAMPS. Il y a quatre champs CHANTS. Peut-être on peut commencer en se demandant où prend sa source ce texte-là. C'est pas, il apparaît pas ex nihilo. C'est un travail qu'a expérimenté Jacques Delille et qu'il a testé aussi auprès d'un auditoire.
Alors absolument. Donc c'est un texte qui paraît en 1800 et dont on a les premières traces dans des comptes rendus, des lectures publiques que Delille a faites dès 1775. Donc la genèse a été très longue. C'est au départ un texte qui se différencie pas très bien des jardins, ce poème sur la manière donc de créer des grands parcs paysagers. Ce qu'on peut dire rapidement, l'enjeu des jardins, les jardins, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un ouvrage qui a joué un rôle très important dans la diffusion de l'esthétique et des jardins dits à l'anglaise plutôt que les jardins dits à la française.
Notre émission, voilà,
exactement. Et on voit que Delille donc va commencer à lire des textes et les témoignages disent tout ça va peut-être dans le même poème, peut-être pas dans le même poème, etc. Et ce qu'on sait, c'est que la matière scientifique elle-même va apparaître les premières traces qu'on en a sont vers 1794, si je me trompe pas, justement dans une lecture qu'il donne au Collège de France. Alors c'est pas anodin parce qu'on est en pleine révolution, le Collège de France a vu son existence menacée, on sait que Delille attire les foules, et les membres du Collège de France, des proches, hein, comme l'astronome Lalande, donc des proches de Delille, ou encore Jean Darcet, qui était un physicien important de l'époque, vont finalement pousser Delille à mener ces grandes lectures publiques auxquelles on invite le gouvernement pour montrer, voilà, le Collège de France est populaire, attire énormément de monde, et est un lieu d'interdisciplinarité aussi. Ça, sans doute, c'est important. Et puis, donc, le Delisle part en exil. Je vous passe des histoires passionnantes qui ont lieu autour des progrès, peu à peu, de ce projet d'édition. Mais le livre est à peu près stabilisé en 95-96. Et puis, donc, quand il va paraître en 1800, il se présente comme un ouvrage qui est finalement une sorte de promesse de bonheur. Alors, promesse de bonheur, parce qu'il explique à ses lecteurs, qui sont plutôt des lecteurs conçus comme des membres des élites urbaines, qu'il faut qu'il s'intéresse à nouveau aux campagnes, parce que les campagnes sont le lieu d'un bonheur individuel, mais aussi, à condition de les développer, de s'y investir, donc à la fois humainement, intellectuellement et financièrement, on va pouvoir en fait améliorer la condition de toute la société. C'est une sorte de spin-off d'un mouvement qu'on appelle la physiocratie, que je ne développerai pas davantage.
On fera une émission aussi sur
exactement.
Vous me donnez plein d'idées dessus,
mais
c'est parfait.
Donc, comment ça se présente? En fait, c'est un texte qui nous parle, qui nous dit vous. Hein. On a quelqu'un qui nous dit vous, qui nous dit voilà, je suis là pour vous apprendre à bien vivre. Le bonheur est dans les campagnes. Allez-y et adoptez quatre rôles. Premier rôle, premier champ. C'est celui du sage qui, par sa bienfaisance, va aider les villageois tout en travaillant son propre bonheur, qui va s'amuser dans son château et en même temps il va investir notamment dans l'éducation avec le maître d'école, etc. Le deuxième champ, c'est cette fois-ci vraiment le moment où le sous-titre de Géorgique française prend son plein sens. C'est un champ dans lequel Delisle va célébrer ce qu'il appelle l'agriculture merveilleuse. Il nous dit « Je ne suis pas là pour redire ce que Virgile a dit, je suis là pour vous chanter les grandes conquêtes de l'agronomie récente, puis aussi les grands travaux de terrassement. » Alors, il célèbre la possibilité de créer des canaux, de déplacer des montagnes, de mettre Mars, comme il dit, c'est-à-dire les explosifs, au service de la transformation des paysages, à des fins de rentabilisation. Donc, tous ces deux champs, finalement, nous parlent beaucoup d'action, de transformation sur la Terre. Et puis, les deux champs qui suivent sont très différents, sont plus méditatifs. Alors, on a ce fameux troisième champ qui est consacré aux sciences. Et Delisle nous dit « Faites-vous naturaliste, suivez Buffon, regardez le monde avec à la main les savoirs savants, hein, des manuels comme ceux de Buffon, et vous allez éprouver quelque chose de fantastique, votre monde va être agrandi. »
Hugues Marchal, je vois pas le temps passer, mais il faut quand même qu'on y aille à cette archive, puisque vous savez, dans Science Chrono, on adore les archives, et on s'est dit quoi de mieux finalement pour une émission sur la poésie scientifique que d'en entendre. On écoute tout de suite un extrait de ce troisième chant, de L'Homme des Champs, de Jacques Delisle. La lecture vous est faite par Laurent Blanpin.
Gloire, honneur à Buffon, qui pour guider nos sages éleva sept fanaux sur l'océan des âges et, noble historien de l'antique univers, nous peignit à grands traits ces changements divers. Mais il quitta trop peu sa retraite profonde. Des bosquets de Montbard, Buffon jugeait le monde. À des yeux étrangers se confiant en vain, il vit peu par lui-même et, tel qu'un souverain, de loin, et sur la foi d'une vaine peinture, par ses ambassadeurs, courtisa la nature. Ô ma chère patrie, ô champ délicieux, où les fastes du temps frappent par tous les yeux. Ô, s'il eût parcouru cette belle Limagne, qu'il eût joui de voir dans la même campagne trois âges de volcans que distinguent entre eux leurs aspects, leurs courants, leurs foyers sulfureux. La mer couvrit les uns par des couches profondes, d'autres ont recouvert le vieux séjour des Andes. L'un, d'une côte à l'autre, étendit ses torrents. L'autre, en fleuve de feu, versa ses flots errants dans ces fonds qu'a creusés la longue main des âges. En voyant du passé ces sublimes images, ces grands foyers éteints dans des siècles divers, des mers sur des volcans sur des mers, vers l'antique chaos, notre âme est repoussée, et des âges sans fin pèsent sur la pensée.
Voilà, Hugues Marchal, cet extrait du troisième chant de L'Homme des Champs de Jacques Delisle. Alors, en quoi cet extrait-là est-il emblématique de ce texte et de cette poésie scientifique que chante Jacques Delisle?
Alors, peut-être première remarque. Vos auditeurs y ont sans doute été sensibles. On a un texte qui est à la fois extrêmement mélodieux, il a été très bien lu, et d'autre part qui est d'une extrême densité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, d'éléments qui sont donnés. Et ça, c'est une des premières caractéristiques du discours poétique, c'est sa densité. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas propre à cette poésie scientifique. Donc, on voit comment Delille va relever un défi qui évidemment chantait toutes les sciences naturelles de son temps, même s'il se focalise sur la géologie de Buffon et puis ensuite sur la création d'un cabinet d'histoire naturelle. Mais chanter ça dans le cadre resserré et extrêmement contraint d'une composition en alexandrin. Alors, dans ce mouvement, donc on a différents... Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la poésie scientifique. Elle peut être définie de manière très vaste. Alors, on peut essayer un petit peu de voir quels éléments apparaissent ici dans ce petit extrait. Alors, premier élément, vous voyez, gloire, honneur à Buffon. Là, on a Delille qui se met en position de régulateur des gloires. Et ça, c'est une grande prérogative du poète que de dire, voilà, c'est... on a toute une tradition qui va dire c'est par le poète seulement que l'immortalité est donnée, c'est lui qui donne des lauriers, etc. Incidemment, Napoléon sera très très mécontent que Delille ne se refuse toujours à le célébrer, oui. Parce qu'il y a l'idée justement qu'il lui manquait cette pièce à sa gloire. Et on voit ici donc Delille donner ses lauriers en tant que poète, et aussi porte-parole de la société finalement, à Buffon. Gloire à Buffon, honneur à Buffon, etc. Et puis, régulateur des renommées, parce que s'y ajoute quelque chose, et là Delille reprend un débat qui est important à l'époque, gloire à Buffon, mais Buffon n'a pas assez vu les choses par lui-même. Buffon a trop compté sur les rapports des autres, etc. Et il est certain que dans le champ scientifique contemporain, Buffon a été attaqué par ses pairs, justement par ses démarches un petit peu, le manque d'observation directe de sa part. Et là, on voit un glissement se mettre en place, puisque Buffon nous dit, Delille nous dit, s'il avait pu aller voir les volcans d'Auvergne tels que je les ai connus moi, alors peut-être il aurait changé sa théorie de la Terre, qui était contestée. Donc Delille ici nous dit, mais moi je suis plus observateur que Buffon, et je vais vous parler de quelque chose que je connais, justement, qui va être donné là. Et puis on a donc cette description du paysage d'Auvergne, mais cette description du paysage d'Auvergnat, elle est réellement ici étayée par la science, parce que ce que Delille nous donne à voir, c'est un paysage qui est en fait un paysage étendu dans une chronologie absolument énorme. Il termine en disant « des âges sans fin pèsent sur la pensée ». Pourquoi ? Parce qu'on est au moment où les travaux des géologues, donc Buffon et d'autres, vont faire éclater le cadre chronologique qui était, à nouveau pour simplifier très rapidement, celui de la chronologie biblique, avec l'idée qu'on pouvait faire tenir en quelques milliers d'années l'histoire du monde. Et ici se développe quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion épistémique. L'émotion venant du fait que tout en regardant le présent des volcans, on est amené à penser à un impensable, il a fallu un moment pour que l'époque le digère, qui est celui que les historiens des sciences appellent le temps profond, le deep time. C'est-à-dire tout d'un coup, Delille se fait le porte-parole de l'impact qu'a eu chez lui-même et chez ses contemporains cette découverte de cette immense durée des âges. Et vous me demandez encore autre façon de penser pourquoi c'est de la poésie scientifique. C'est de la poésie scientifique parce qu'on a ce mot qui semble faire tâche. Là-dedans, c'est les foyers sulfureux. Sulfureux, c'est un mot qui ne fait pas partie du registre des mots perçus comme poétiques. On ne trouvera pas sulfureux chez Racine, en tout cas pas dans ce sens-là. Et on voit comment donc Delille va jouer aussi à intégrer dans un langage qui est celui de la littérature des termes qui peuvent être perçus comme techniques, à les accommoder, à les mettre en avant, et dans un travail où vous voyez qu'on est vraiment dans la suggestion, on n'a pas affaire non plus ici à une leçon de science, c'est pas du tout l'idée. On peut aussi donc considérer ce texte scientifique ce texte poétique comme un texte qui est amené vraiment à faire circuler auprès d'un large public sous une forme poétique des énoncés scientifiques que le lecteur intéressé ira développer en allant ensuite lire des manuels, en prenant langue avec des savants, etc.
Alors Hugues Marchal, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé dans Science Chrono, c'est que vous avez fait un épisode entier sur le mariage, finalement, de la poésie et des sciences. On avait annoncé le divorce. On n'aura pas le temps, absolument pas le temps, de parler de ce divorce, puisqu'on arrive au terme de notre discussion, de cette première partie de Science Chrono. Mais j'annonce déjà un deuxième épisode avec vous, si vous êtes d'accord pour revenir parler, du divorce au 19e siècle entre poésie et science. Et pourquoi au 19e siècle, finalement, la littérature et les sciences ont changé de chemin. Il faut le dire quand même, ce poème de Jacques Delisle est un succès considérable, traduit dans 13 langues, toutes en Europe, 30 000 exemplaires vendus, épuisés en quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous, Hugues Marchal, d'être venu nous parler dans cette première partie, ce premier temps de la poésie scientifique et de cette histoire de la poésie scientifique. Et on se retrouve très bientôt dans Science Chrono pour l'épisode 2. À très bientôt.
Merci beaucoup Antoine Beauchamp.
Suck them off, an open lipless O. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of.
Allez, je le tente en anglais. I'm a girl you can kiss, IRL. Par ML Book. Bon, je repasserai pour l'anglais dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé poésie scientifique, on va tenter une expérience elle aussi poétique de l'archéologie. On part tout de suite dans des mondes parallèles.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
L'archéologie s'intéresse aux vestiges matériels des sociétés humaines. Par cette étude, elle propose d'affiner nos connaissances du passé et analyser notre inscription en tant que société dans l'histoire. Depuis quelques décennies, les sociétés humaines ont constitué des espaces de rencontres immatériels, des mondes virtuels, dits persistants, qu'on peut qualifier aussi de métavers, comme le logiciel Second Life, où chaque utilisateur peut vivre, évoluer, interagir et laisser une trace de son passage. On le sait, toute création ou construction humaine peut connaître un déclin, voire une disparition, et ces mondes virtuels ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Dès lors, quelle archéologie peut-on faire de ces métavers abandonnés, et que nous disent ces ruines numériques de notre rapport à la mémoire et à l'oubli, ou encore à la valeur que l'on donne à l'intangible? Voilà quelques-unes des très grandes questions auxquelles nous allons réfléchir avec vous. Hortense Boulay-Ifrène, bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes doctorante en recherche création à l'Université Paris 8 et à l'École universitaire de recherche Artec. Votre thèse s'intitule « Monde virtuel en ruine, une approche interdisciplinaire de l'archéologie des médias ». Alors habituellement dans l'entretien archéologique, on s'intéresse à l'archéologie, on va dire classique, celle qui touche aux traces matérielles laissées par les sociétés humaines du passé. Ça implique des objets, des ruines, des structures architecturales, des tombes, bref, toute une variété de preuves tangibles. Or, pour cette émission, on s'est dit qu'on allait faire un petit pas de côté et essayer de comprendre avec vous comment on pouvait proposer une exploration archéologique de mondes virtuels, a priori immatériels, qui sont des témoins des sociétés humaines et qui proposent des ruines d'un genre nouveau. Et on va poser une question ouverte ensemble. L'immatériel proposé par les mondes virtuels peut-il être considéré comme un vestige archéologique? Et on n'apportera pas de réponse, soyez sûrs. Alors, Hortense Boulay-Ifrène, moi je voudrais parler d'abord du cadre théorique dans lequel s'inscrit votre travail de recherche. Je donnais le titre de votre thèse qui parle d'archéologie des médias. Il faut donner une petite spécification. Média s'écrit M-E sans accent, D-I-A sans S. Alors ça m'intrigue. Alors comment vous pourriez définir cette archéologie des médias ?
Alors, l'archéologie des médias, c'est une partie des Media Studies qui va s'occuper d'exhumer, de remettre dans l'actualité des oubliés des médias qui sont considérés en fait comme des... une histoire parallèle en fait des médias. Le terme archéologie vient de l'archéologie du savoir de Michel Foucault, donc pas l'archéologie disciplinaire comme on l'entend dans cette émission. L'archéologie de Michel Foucault cherche finalement à trouver les généalogies des dispositifs de l'histoire en fait, des objets historiques pour tenter de comprendre comment finalement l'histoire ne s'écrit pas forcément de manière téléologique. Moi, l'archéologie des médias m'intéresse spécifiquement parce qu'elle aussi, elle s'oriente vers la matérialité des médias. C'est-à-dire que il y a énormément de laboratoires dans le monde entier, laboratoire scandinave. En France, on a un laboratoire pas mal qui va s'occuper justement de redécouvrir la physicalité de ces objets médiatiques en les bidouillant, en les ouvrant, en les réparant et en les réutilisant.
Oui. Alors quand on parle d'archéologie aussi, on pense souvent à des objets très nobles, très impressionnants. Il faut dire aussi que l'archéologie s'intéresse aussi aux rebuts, aux déchets, aux poubelles des humains du passé qui sont souvent porteuses d'histoires et d'informations très précieuses sur des modes d'existence. Est-ce que d'une certaine façon, en vous intéressant, vous, dans votre travail de recherche à ces mondes virtuels, vous vous intéressez à une forme de rebut intellectuel, archéologique d'une certaine façon?
Alors oui, on peut dire ça. L'archéologie des médias, donc, vient dans ma thèse complémenter cette question de la matérialité, puisque vous parliez de d'immatérialité de ces mondes, mais ces mondes ne sont en réalité pas immatériels. Hein. Pour qu'il y ait image à l'écran, il faut qu'il y ait des infrastructures derrière qui puissent porter ces mondes-là. Je m'intéresse aussi à une forme d'archéologie plus métaphorique, puisque finalement les mondes persistants en ligne existent déjà depuis les années 80. Il y a Habitat en 1985. Puis en 1995, Active Worlds, qui est toujours visible aujourd'hui, et en 2003, Second Life, qui est, je pense, le monde persistant le plus connu. Et puis, dans les années, disons, les années 2010 plutôt, ces mondes persistants-là, qui étaient censés être des mondes qui réunissent des avatars en ligne, en 3D, ensemble, dans cette volonté quand même de réunir des personnes dans le monde entier à un seul et même endroit virtuel, a été supplanté par les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme Facebook, puis ensuite Snapchat, puis ensuite TikTok, etc., pour n'en citer que quelques-uns. Puis ensuite, ces mondes-là, finalement, ont été très vite désertés, très vite abandonnés. Et aujourd'hui, finalement, il y a des archéologues du XXIe siècle qui redécouvrent ces mondes persistants là comme des objets métaphoriquement archéologiques. Et c'est ce qui fait partie finalement de ma thèse de doctorat.
Et on va creuser ça, tout ça, ensemble. Alors, on parle de monde persistant, de monde virtuel, de métavers. Je me posais une question, et puis je pense que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément toutes familières avec ces univers-là. Alors, on va déjà distinguer deux grands blocs, le jeu en ligne multijoueur et le monde persistant. Qu'est-ce qui distingue ces deux univers-là?
Oui, je pense que c'est important de faire cette distinction. Les MMORPG, donc Multiplayer Online Game, ce sont des jeux avec un but vidéoludique, avec des quêtes,
une narration
très spécifique, alors que les mondes persistants, à l'origine, sont des formes d'utopie virtuelle dans lesquelles, finalement, on est invité à faire un peu ce qu'on veut. Donc, si on a envie de construire sa maison, on peut construire sa maison. Si on a envie de construire son mall, on peut construire son mall. Si on veut construire son jardin féerique, on peut construire son jardin féerique. Et puis, surtout, il y a l'idée, finalement, de communauté derrière, qui est très importante, communauté de réseau. Il y a cette idée de communauté aussi dans les jeux vidéo, dans les MMORPG. Mais c'est vrai que la base finalement formelle de ces mondes persistants, c'est l'idée de créer une communauté en ligne.
Alors on va parler de l'un des archétypes de ces mondes persistants qui est Second Life, mais vous évoquiez les précurseurs de ce genre de monde persistant. Vous parliez d'Habitat en 84-85, ça c'est perturbant, parce qu'on se dit en 84-85, Internet n'existe pas, ou en tout cas le web n'est pas encore développé et n'est pas, voilà, dans toutes les maisons. Alors, à quoi ça ressemblait ce genre de monde persistant? Et puis on peut parler des autres qui suivent. Visuellement, ça ressemblait à quoi?
Alors, Habitat, c'est un monde virtuel qui a été créé par Lucasfilm à l'époque, dirigé par Chip Morningstar. C'est un monde disponible avec une Commodore 64, connecté finalement à son réseau modem Internet, qui ensuite relié, qui envoie l'information, qui est relié à un serveur central, qui s'occupe justement de faire en sorte que deux personnages puissent se retrouver ensemble à l'écran. C'était assez révolutionnaire à l'époque, hein. Donc c'était en deux dimensions, c'était très lent, mais on pouvait
beaucoup de textes aussi, je crois.
Beaucoup de textes, exactement. Les textes apparaissaient sous forme de bulles, donc c'était une sorte de petite BD en deux dimensions. Enfin, Cette forme-là a été reprise plus tard sur Abo Hotel, justement. On avait à peu près les mêmes formes, justement. On ne pouvait pas parler, mais seulement des petites bulles s'affichent.
On peut parler aussi d'Active Worlds, qui est l'un des mondes persistants les plus anciens, encore accessible. Il a été créé en 95. Là aussi, deux mots avant qu'on se plonge dans cet univers de Second Life.
Oui, alors Active World a été créé en 1995, mais pour ma part, je m'y suis intéressée, non pas forcément pour l'histoire, mais pour la manière dont aujourd'hui on le redécouvre. Ce monde persistant-là. Il y a énormément de créateurs et créatrices de contenu sur Internet qui retournent dans Active World comme une sorte de curiosité virtuelle. Il y a notamment un YouTuber qui s'appelle Vinesauce, Vinny de Vinesauce, qui est retourné dans Active World et qui a rencontré un avatar du monde Hitomi Fujiko et qui a créé une sorte de légende, un peu de l'étrangeté sur Internet et qui décrit justement...
Ces ruines, elles sont propices à ces légendes qui circulent beaucoup sur Internet, quoi.
Tout à fait, exactement. Il y a même un YouTuber qui s'appelle Nexpo, qui a redécouvert un monde persistant du nom de Worlds.com, dans lequel il y avait une sorte de culte mystique. Donc c'est effectivement...
C'est l'Atlantide, en fait.
C'est un peu ça.
Une forme d'Atlantide.
C'est un peu une forme d'Atlantide.
Alors du coup, on en arrive là à Second Life, donc, qui a été créé en 2003. Aujourd'hui, on pense plus trop à Second Life, mais dans les années 2000, c'était quand même quelque chose d'important pour ces mondes persistants et puis cette expérience collective en ligne. Pourriez-vous, Hortense Boulay-Ifrène, nous rappeler ce qu'est ce projet et l'origine et l'intention de ce projet-là?
Alors, comme beaucoup des projets de monde persistant, c'est un projet d'utopie virtuelle en ligne dans lequel les créateurs sont... En tout cas, les personnes qui ont été à la base de la création sont considérées comme des sortes de demi-dieux qui donnent justement des Prométhées qui donnent le feu à le futur peuple virtuel. Alors, Second Life, c'est tout simple. Au début, c'est seulement le sol et un sol virtuel et le ciel. Et puis, des avatars sont venus peupler ce monde-là qui a grandi jusqu'à former des milliers d'îles visibles sur la carte virtuelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, finalement, ce sont des personnes qui se réunissent dans des communautés pour créer leur propre utopie, leur utopie située, et qui aujourd'hui ressemble à une sorte de grande banlieue américaine.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on y reviendra bien sûr à ce à quoi ça ressemble, mais finalement, le créateur de Second Life, Philippe Rosedale, lui avait vraiment pour ambition de pouvoir vivre totalement dans cet univers parallèle. J'évoquais ça, on va en parler tout de suite, mais l'archéologie, c'est une science de terrain. Alors, si on faisait un peu de terrain de Second Life, comment vous pourriez décrire ce paysage, cet environnement et la pratique des fouilles que vous réalisez dans cet espace-là?
Alors, plus spécifiquement, dans Second Life, j'ai cherché à créer une sorte de fouille métaphorique, une fouille fictionnelle, dans une île spécifique qui est l'île de Chris Marker, du nom d'Ouvroir, qu'il a créé en 2008 avec un artiste du nom de Max Moswitzer.
Donc Chris Marker, le grand cinéaste documentariste célèbre pour La Jetée, pour Sans Soleil, pour tous ces documentaires qui sont très marquants et qui était, lui, complètement fasciné par l'univers numérique.
Oui, tout à fait. Fasciné par l'univers numérique et même il commence dans les années 80 à s'intéresser au code informatique. Il a fait énormément d'installations d'art numérique. À la fin de sa vie, en fait, il s'intéresse justement au monde virtuel qui lui permet ensuite d'être un lieu de réunion. Finalement, il faisait toutes ces réunions dans son île de Second Life qui à l'origine en fait a été créée pour une exposition en Suisse à Zurich et qui plus tard finalement est devenue un terrain d'expérimentation pour de jeunes aventuriers du virtuel qui ont créé dans cette petite parcelle de terrain leur propre monde également. Puis d'autres artistes sont venus tester des scripts, des performances jusqu'à la mort de Marker en 2012 pour laisser finalement ce monde comme une sorte de musée aujourd'hui. Alors c'est pas totalement exact parce qu'il y a encore un avatar qui jusqu'aujourd'hui utilise le ciel de l'ouvroir parce qu'il est possible de voler et donc de construire dans le ciel. Donc l'avatar continue de créer ce monde jusqu'à aujourd'hui. Donc dans mon travail, je l'ai interviewé, on s'est rencontrés, il m'a montré un peu son monde qu'il continue de construire, mais le niveau du sol est occupé par cette partie historique de l'ouvroir, qui est aujourd'hui figée dans le temps, alors qu'à l'origine, elle bougeait énormément. Mmh. Et je me suis attachée, donc, dans cette archéologie métaphorique, à créer un grand inventaire de chaque objet présent dans cette partie historique. Et puis, j'ai eu aussi la chance de rencontrer les créateurs et créatrices qui ont été impliqués dans l'ouvroir à l'époque, et qui, finalement, m'ont montré des images. Et c'est par l'image, finalement, qu'on retrouve aussi ce à quoi l'ouvroir a pu ressembler.
Mmh. Alors, cet ouvroir, cette île de Chris Marker dans Second Life, c'est un peu pas une anomalie, parce qu'il y a plein d'environnements qui sont spectaculaires, originaux, loufoques, etc. Mais vous évoquez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que dans cet univers virtuel, dans ce monde numérique qui est en partie abandonné par ses utilisateurs aujourd'hui, il y a encore un peu de monde qui va dans Second Life, mais voilà, le temps est figé et les gens ont construit finalement une espèce d'annexe du monde qui ressemble, vous le disiez, à une banlieue américaine. On a reconstitué finalement une archéologie très, une architecture très sommaire, neutre finalement, dans Second Life.
Oui, oui, tout à fait. Là où on était censé créer une ville temporaire à la Burning Man, par exemple, il est vrai que finalement l'utopie réelle des avatars ressemble effectivement énormément à la maison parfaite de banlieue américaine. Il y a d'autres endroits, évidemment, qui s'éloignent un peu de cette forme-là très spécifique. L'ouvroir en fait partie. Mais effectivement, il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça.
Alors, je disais aussi tout à l'heure, les personnes qui nous écoutent sont pas forcément des personnes qui utilisent Second Life. Donc, on parlait de l'abandon aussi progressif de ces mondes virtuels. À quoi ressemble un environnement de Second Life abandonné?
Alors, comme il ressemble, enfin, en fait, finalement, c'est l'architecture sans les avatars, finalement. Le temps est figé. Il y a cet effet, justement, d'horreur, de désertion, qui est plus qu'un effet de ruine. Moi, je travaillais autour de la question des ruines. Et qui, du coup, pour moi, la question des ruines a un lien avec les ruines actuelles. Je pense notamment à la pensée de Marc Auger ou de Bruce Bégou sur la question de l'obsolescence des ruines, où, finalement, le mot ruine n'a plus vraiment cours aujourd'hui dans le bâti contemporain qui ne vieillit plus, où le temps ne passe plus. Et je dirais que dans ma thèse, je tire ce lien-là, ce lien poétique avec ces ruines qui ne sont plus des ruines, mais qui sont des ruines en creux.
Alors là, vous me tendez une perche parfaite parce que c'était le sens de mes questions qui venaient. On parle beaucoup de ruines quand on parle d'archéologie. Enfin, on ne parle même pas de ruines, on parle de vestiges généralement. Oui. Le terme de ruine est encore à part. On va y venir. Mais en tout cas, je voudrais savoir si on peut parler de ruines, justement, pour ces mondes virtuels abandonnés.
Alors, quand on lit, finalement, des historiens des ruines comme Alain Schnapp, Lia Routsos, Sabine Forero-Mendoza, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs pensées des ruines qui s'accumulent. Moi, je dirais que la ruine existe comme un fantôme. La ruine existe en creux, elle n'existe pas réellement en surface, mais comme je disais tout à l'heure, l'archéologie des médias permet aussi d'imaginer et de se concentrer sur les questions de matérialité. Quand je disais que tout à l'heure, pour qu'il y ait surface, il faut qu'il y ait fond aussi. On peut considérer que les infrastructures de data centers qui supportent ces mondes virtuels-là sont les ruines actuelles qui, du coup, vont mettre énormément de temps à vieillir et à se dégrader.
Alors, en plus, il faut rappeler quelque chose, et vous le disiez, c'est un monde où le temps n'a pas de prise, où c'est pas un monde organique, donc finalement, les espaces, une fois qu'ils ont été conçus dans Second Life, ils vont rester tant que le serveur continuera d'exister. Est-ce que ça implique, du coup, nécessairement de repenser même notre rapport aux ruines, à la trace, aux vestiges, cette archéologie des médias que vous pratiquez?
Oui, je pense que c'est ce que j'essaie en tout cas d'écrire dans ma thèse. Alors évidemment, je suis aussi la pensée de théoricien. Tout à l'heure, je parlais d'Alain Schnapp qui écrit dans sa conclusion de l'histoire universelle des ruines que la ruine se définit finalement sur un spectre à trois niveaux entre nature et culture, mémoire et oubli, matérialité et immatérialité. Et je dirais que si on pousse un peu les curseurs vers ruine culturelle, immatérialité, entre guillemets, j'entends, mémoire oubli, je dirais que là on serait plutôt au milieu, on peut retrouver de la ruine dans ces mondes persistants-là, là où finalement peut-être que le temps long et ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est Sabine Ferreiro-Mendoza dans un article assez récent d'ailleurs, que le temps long n'est peut-être plus, en tout cas,
un critère
pour définir les ruines.
Alors Alain Schnapp était venu parler au micro de Vincent Charpentier, qu'on salue dans Carbone 14 sur France Culture, de cette histoire universelle des ruines, des origines aux lumières, un livre vraiment passionnant paru aux éditions du Seuil. Et vous le disiez très bien, voilà, il dissociait la ruine du monument, et il disait qu'un poème, un paysage, un rite collectif pouvait être en soi une ruine, et il affirmait que finalement la ruine c'est un processus plus qu'un objet, et que la ruine était aussi une façon de s'inscrire en tant que société dans le temps. Mmh. Alors, question qui vaut très cher, mais comment ces ruines virtuelles nous inscrivent, nous, en tant que collectif, dans le temps? Est-ce que, voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut étudier? Comment on peut l'étudier, cette question-là?
Alors, il y a toute une question au niveau de la préservation, de la conservation de ces mondes-là. Je pense qu'à partir du moment qu'un être humain a passé du temps à construire un endroit, à en faire son endroit à soi, ces lieux ont de l'intérêt. Je pense notamment, alors c'est plus des ruines virtuelles, mais je pense notamment aux skyblogs qui ont été conservés par l'INA et la BNF très récemment, qui sont des traces de notre adolescence sur Internet, enfin une partie de l'adolescence des Français sur Internet, dont je fais partie d'ailleurs. Donc je pense effectivement que ces mondes virtuels-là ont tout intérêt à être archivés, à être documentés. Alors il y a déjà eu des personnes, des universitaires qui ont tenté justement de garder une trace de ces mondes-là, des traces du hardware, des traces, mais en fait finalement garder une trace de conserver ces mondes-là en l'état, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, finalement, on se confronte aussi au fait que, oui, on parle d'avatar, c'est nous qui construisons, mais ce monde appartient à des entreprises privées. Et ce sont ces entreprises privées-là qui détiennent le code, qui détiennent les structures et les infrastructures de conservation. Donc c'est très difficile pour une institution culturelle
de les garder, de les conserver.
Exactement. Donc, ce que j'essaie aussi de développer dans ma thèse, mais ce que plein d'artistes ont essayé de faire aussi, c'est de documenter ces ruines-là, de documenter ces vestiges virtuels par le film, par la photographie, par l'installation, pour tenter finalement de garder une mémoire située de ces mondes-là.
Alain Schnapp, il s'interrogeait aussi dans son livre sur l'effacement des ruines, qu'il soit volontaire ou bien le fait du temps et de l'érosion du temps. Là, on va parler de l'effacement de ces mondes virtuels qui peut être soudain, brutal. Qu'est-ce qui se passe quand un monde virtuel disparaît? Parce que Second Life existe encore, mais il y en a d'autres. Par exemple, je pense à Allspace VR, qui avait été inauguré en 2013 et puis qui a été fermé par Microsoft en 2023, si je dis pas de bêtises. Ça se passe comment, la fin d'un monde virtuel?
Alors, j'ai eu la chance de documenter cette fin d'Allspace VR. Donc au début, après l'annonce de Microsoft de fermeture de ce monde-là, je me suis dit que bon, c'était le moment où je commençais ma thèse, donc je me suis dit ok, je mets tout à côté pour aller dans ce monde, pouvoir documenter justement cette fin. Au début, c'était une documentation photographique, puis ensuite je suis vite passée au film pour pouvoir rencontrer des avatars, pour pouvoir capturer des décors de ce monde-là avant cette fermeture. Et je dirais qu'il y a une grande dimension spéculative comment ça va se passer, comment ça ferme un monde virtuel. Il y a quelque chose de très fascinant à se poser cette question, je pense, où finalement en parallèle du fait de rencontrer des gens, on se pose cette question d'est-ce que va y avoir un message d'erreur, ou est-ce que le monde va tomber physiquement en ruine. Il y a un film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel,
It's the Night,
ouais. Exactement, qui est dédié justement à la relation d'un frère et d'une sœur pendant la fermeture du monde virtuel qui les a accueillis et auquel ils sont extrêmement attachés. Donc cette zone d'attachement-là, elle est très importante aussi à documenter, je pense. Je spoil un peu la fin du monde virtuel, mais disons que voilà, alors il y a eu plein de fêtes, d'événements pour la fermeture de ce monde-là, mais Allspace VR a été fermé simplement par un message d'erreur. C'est très déceptif.
Hein. C'est anti-spectaculaire au possible.
C'est anti-spectaculaire au possible. Mais d'ailleurs, Microsoft n'a même pas daigné créer créer un événement autour de ça, enfin en tout cas en faire quelque chose.
Ils ont dit qu'ils ne garderaient aucune archive de ce passé, de ce monde virtuel-là.
Exactement, il n'y a aucune archive, à part on pouvait télécharger ses photos et un fichier Excel avec tous ses contacts virtuels et ses messages, mais c'est tout. Mmh. On ne pouvait pas créer, enfin on ne pouvait pas télécharger les mondes qu'on a créés. Alors, il y a des personnes qui ont un peu hacké le système, qui ont créé une manière d'absorber, je ne dirais pas le nom, mais une manière d'absorber ses propres mondes pour en garder une trace et ensuite les re-télécharger vers d'autres mondes virtuels.
Alors, il y a aussi un phénomène qu'il faut souligner, c'est que c'est des moments généralement poignants pour les utilisateurs qui sont constitués des avatars et finalement une existence un peu parallèle dans ces mondes virtuels. Ça aussi, vous l'avez constaté dans votre travail de recherche.
Oui, tout à fait. J'ai eu des avatars qui pleuraient. Mmh. J'ai beaucoup suivi le passage d'un monde virtuel à un autre, d'une communauté d'avatars, mais qui se retrouvait finalement sans rien. Il faut savoir que Allspace VR, comme beaucoup de mondes persistants, est occupé par des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne peuvent pas, qui sont très isolées. Mmh. Ça aussi été un moment où, pendant le Covid, c'est un endroit qui permettait à des personnes de se retrouver, et donc ne plus avoir justement cet endroit de rencontre, c'était terrible.
Mmh. Alors ces mondes, on les dit, persistants, on constate qu'ils ne sont pas si persistants que ça, puisqu'ils peuvent fermer du jour au lendemain. Il faut aussi dire aussi que au milieu des années 2000, enfin vers 2004, 2005, à partir du moment de la croissance des gros réseaux sociaux comme Facebook, ils ont aussi pris du plomb dans l'aile. Là aussi, il y a eu une concurrence. Qu'est-ce qui s'est perdu des mondes virtuels avec l'émergence des réseaux sociaux?
Ce qui s'est perdu, c'est un nombre d'avatars. Je dirais que les réseaux sociaux permettent plus ou moins la même chose que les mondes virtuels, hein, pas du tout dans les mêmes formes, mais ça permet de se retrouver en ligne. La dimension communautaire, on la retrouve sur Facebook, à visage découvert cette fois, mais en fait, ça permet de garder contact avec les personnes qu'on aime, et c'est plus facile d'utilisation aussi. Je pense que entrer dans Second Life, se faire la main, avoir un ordinateur qui fonctionne correctement à l'époque, pour pouvoir afficher des graphismes quand même assez lourds, c'était compliqué. Alors, cette utopie des mondes virtuels est revenue quand même il y a quelques années avec ce projet de Zuckerberg.
Le métavers de Facebook à l'époque qui ne s'appelait pas encore Meta, qui a fait beaucoup rire tout le monde puisque c'était pas très très beau.
Effectivement. Qui est en fait finalement une ruine instantanée un peu, parce que ça a été un grand... ça n'a pas du tout été un succès. Et alors que Meta a mis des milliards d'euros dans la refonte de Facebook en Meta, dans des super calculateurs qui étaient censés être utilisés pour le métavers, mais qui aujourd'hui sont utilisés pour l'intelligence artificielle. Et du coup, effectivement, disons qu'il y a une boucle temporelle qui se crée aussi. Facebook a remplacé Second Life. Meta est tenté de remplacer Facebook.
Dans ce que vous dites, Hortense Boulay-Ifrane, là, à l'instant, vous dites ça a été une ruine instantanée. Et je me dis, finalement, est-ce que notre capacité à créer des ruines, puisque vous le disiez tout à l'heure, architecturalement, on crée plus trop de ruines, on recycle, cette capacité qu'a l'humanité à créer des ruines, est-ce qu'on l'a transposée dans le monde virtuel et est-ce qu'on s'amuse finalement à créer des ruines faciles à créer, à oublier dans l'espace virtuel?
Alors, c'est une question assez intéressante. Je pense que la ruine, elle vient d'elle-même. En soi, si on considère que la ruine, c'est un processus entre un bâtiment debout et son extinction totale, les mondes persistants, c'est soit l'un, soit l'autre. Les curseurs sont vraiment poussés, la dimension temporelle est vraiment poussée au niveau de l'instantanéité, au niveau du présent, finalement. Et je pense que ça nous parle aussi beaucoup de ce que François Hartog appelle notre régime d'historicité présentiste. Régime d'historicité présentiste se définit par le fait que finalement le passé n'éclaire plus le présent et le futur est un peu, bloqué. On ne peut pas vraiment imaginer le futur et on est bloqué de présent permanent, de présent plastifié. Et je dirais que ces mondes virtuels, ces ruines d'utopie, nous parlent énormément finalement de ce monde figé des années 90, figé dans le plastique.
Et ces ruines virtuelles, elles nous obligent aussi à faire une nouvelle archéologie, peut-être une archéologie du présent, moins matérialiste, moins concentrée sur l'objet palpable, mais sur la façon qu'on a d'occuper et d'habiter ces espaces virtuels. En tout cas, on a hâte de lire le résultat de votre travail de thèse, et puis on a hâte de lire votre manuel d'archéologie des médias.
Merci
beaucoup à vous, Hortense Boulay-Fren, d'être venue nous parler d'archéologie des mondes virtuels. Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Edouard Rubinstein aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.